Cette table ronde, c'est un peu le moment important de ces 10 ans d'association. L'association accueille un critère culturel en Royan. On a eu hier avant-hier même un vernissage d'exposition. Hier, un film de Ken Loach. Mais aujourd'hui, c'est la journée de fête avec la table ronde, le spectacle, le repas et le film. Et puis avant, il y a eu l'exposition commentée par Philippe Anus. Voilà, on est dans un déroulé continu. Là, ce qu'on vous propose, c'est de parler de 100 ans d'accueil dans le Royan-Vercors. C'est-à-dire de se dire que nous, on a 10 ans d'existence, mais depuis 100 ans, sur ce territoire, il se passe des choses particulières en termes d'accueil. Et les intervenants qui vont vous être présentés vont prendre différents angles d'attaque. Bon, avant de commencer, bien sûr, je remercie les élus qui sont présents et les élus qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir, qui sont absents, ont participé un peu à l'élaboration de ce projet. En particulier, donc, les élus de Cognin-les-Gorges, le maire de Saint-Jean-Royan, qui est aussi vice-président du Conseil général.
Voilà, merci beaucoup d'être là pour ce temps de table ronde. Donc, créée le 16 janvier 2014 à Saint-Jean-Royan, l'association R, Accueil interculturel en Royan, a aujourd'hui 10 ans. 10 ans d'accueil inconditionnel de plusieurs dizaines de personnes exilées de tout âge, du nouveau-né à 72 ans, essentiellement des familles, venant de tous horizons, Albanie, Kosovo, Soudan, Sénégal, Arménie, Angola, Ukraine. 10 ans d'accompagnement dans l'accès au logement, à la santé, dans la scolarité, les déplacements, l'emploi et l'accès aux droits et les démarches administratives si complexes. Tout cela est possible grâce à l'engagement des dizaines de bénévoles, grâce au partenariat étroit avec les associations locales, le Centre social La Paz et particulièrement les ateliers de français, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, les recycleries, la CCR 5e saison et Radio Royan, la Ferme des Roussets, les Martinades, Royan d'hier et d'aujourd'hui. Et j'espère que je n'en ai pas oublié. Grâce aussi au partenariat avec les communes de Saint-Jean et de Saint-Laurent qui mettent à disposition des logements pour les familles ukrainiennes. Et grâce aussi, et peut-être surtout, enfin aussi par l'engagement financier des 80 donateurs réguliers. R est reconnu d'intérêt général, mais ne reçoit aucune subvention d'aucune sorte. Par son action, et Pierre l'a un peu dit tout à l'heure, R s'inscrit dans la longue tradition d'accueil des exilés et des réfugiés dans le Royan et le Vercors. Par exemple, les réfugiés espagnols accueillis en février 39 à Saint-Jean, ou les plusieurs centaines de réfugiés du sud-est asiatique accueillis à Cognin-les-Gorges entre 1977 et 1992. À ce propos, je vous conseille, ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'aller voir l'exposition Sur la route de l'exil, qui est une exposition créée par la communauté de communes Saint-Marcellin-Vercors-Isère-Communauté, la commune de Cognin et le Centre du patrimoine arménien. C'est une magnifique exposition et qui est là visible jusqu'au 5 avril. Donc ces accueils ont pris et prennent encore aujourd'hui différentes formes, différents chemins. Pour en témoigner à cette table ronde, deux historiens et deux témoins actuels de l'accueil. Alors Philippe Anus, qui démarrera, qui est historien, responsable de l'ethnopôle du Centre du patrimoine arménien à Valence et spécialiste de l'histoire des migrations en Rhône-Alpes. Alors il pourra nous donner à travers des exemples concrets ce qui s'est passé sur ce territoire et puis nous permettra aussi de prendre un peu de recul et de réfléchir à ces notions d'accueil. Pierre-Louis Filet, historien aussi, directeur du musée de la Résistance à Vassieux, nous parlera lui de la présence des étrangers dans le maquis du Vercors. Qui sont-ils? Pourquoi se sont-ils engagés dans le maquis? Et quelle place le récit de la Résistance leur fait-il? Aurélie Charras, administratrice de l'association La Trame, ADI, nous expliquera la naissance et le fonctionnement de cette association qui base son accueil sur la vie communautaire et l'activité, un peu à la manière des communautés Emmaüs. Leur principe d'accueil inconditionnel est assez différent de celui de R et permettra d'enrichir nos approches. Et puis Céline Barré, co-directrice de ANVITA. ANVITA, c'est l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Elle témoignera de l'engagement de collectivités auprès des associations pour un accueil inconditionnel. Et avec un petit focus sur la Drôme et les quatre communautés de communes que ANVITA a accompagnées pour signer avec l'État ce qu'on appelle une convention territoriale d'accueil et d'intégration. Ce sera aussi l'occasion de pointer l'intérêt et les limites de ce dispositif. Ce qu'on vous propose, c'est que du coup, chacun des quatre intervenants vont environ parler une quinzaine de minutes. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange tous ensemble. Et puis, ce sera aussi l'occasion d'écouter d'autres associations qui sont présentes dans la salle et qui aussi, dans les différents lieux où elles sont, mènent des actions d'accueil. Et puis, évidemment, on est intéressé par vos réactions, les questions, etc. L'ensemble est enregistré par Radio Royan, Vercors, pour une diffusion ultérieure sur les ondes. Et merci à Radio Royan d'être toujours présent et d'animer cette table ronde avec nous. Philippe, je te laisse la parole.
Un petit mot juste préparatoire. J'ai l'esprit d'escalier. On voulait aussi parler une petite minute, une petite pensée pour notre fondateur, donc Pierre Maton, qui est décédé donc l'an dernier. Je pense qu'il aurait été content et fier de voir cette assemblée d'aujourd'hui. Une petite pensée pour lui.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'équipe d'Air pour l'invitation. Je suis ravi de venir partager avec vous quelques questionnements, puis quelques réflexions, quelques travaux empiriques également consacrés donc à un des sujets majeurs de notre temps, les migrations, qui est souvent posé comme un problème, pas au sens intellectuel du terme, mais comme un problème politique, voire politicien, instrumentalisé, pour le pire, dans nos sociétés dont les enjeux démocratiques sont de plus en plus étriqués, pourrait-on dire. Et alors que la question migratoire, finalement, fondamentalement, est une question consubstantielle à l'idée même de l'humanité. Alors ce que je vous propose, c'est de partager d'abord, dans une petite introduction, quelques notions, quelques réflexions, pour qu'on soit un petit peu au clair sur le vocabulaire, parce que les mots sont vecteurs de significations parfois qui peuvent prêter à confusion. On va essayer d'éclaircir quelques notions ensemble, et puis ensuite je m'appuierai sur quelques résultats de recherche empirique sur, effectivement, l'histoire des mobilités alpines, puis des migrations. On ira même un peu plus loin que le siècle, hein, dans la remontée des périodes historiques. Alors peut-être, effectivement, quelques mots. Il est courant d'opposer la figure du sédentaire à la figure du nomade, par exemple. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. On aime bien aussi, dans le cadre de ce qui, je crois, nous structure toutes et tous aujourd'hui, c'est-à-dire le modèle de l'État-nation, qui a une forte puissance anthropologique, mais finalement qui est un modèle assez récent, hein. Ça a 150 ans, l'État-nation, à peine. Et pourtant, on a l'impression que c'est là de tout temps. Et tant et si bien que certains manipulateurs de l'opinion aiment bien, tendraient à nous faire croire qu'il y aurait comme ça une essence de la nation proto-historique. Hein, je vous renvoie au délire identitaire de Viktor Orban, par exemple, en Hongrie, ou d'autres dictateurs qui, aujourd'hui, tendraient à montrer qu'il y aurait une essence du peuple. Pensez comme un monde clos, hermétique, avec une civilisation qui lui serait associée, elle-même pensée comme un univers auto-centré de tout temps. Bon, les travaux des archéologues, et c'est pour ça qu'on peut aller chercher de la matière empirique très très ancienne, les travaux des archéologues, des géographes, des historiens, des chercheurs, hein, dans différentes disciplines, même des paléo-anthropologues tendent à montrer qu'effectivement l'humanité fonctionne autrement dans ces modèles, et que cette tension dynamique entre mobilité et sédentarité est un couple dynamique qui accompagne l'humanité depuis qu'elle est humanité. Rappelons-le. Alors, l'État-nation se construit effectivement sur un modèle très binaire, le dedans et le dehors. La citoyenneté et citoyenneté, en quelque sorte, la figure de l'étranger. Alors, c'est très intéressant le mot étranger parce qu'il y a plusieurs acceptions au terme. Sous l'Ancien Régime, l'étranger, c'est celui qui n'est pas du pays. Alors c'est quoi un pays? C'est un bassin de vie, c'est le canton, c'est les limites du canton. Là, je vous renvoie aux travaux de Pierre-André Rosenthal sur les sentiers invisibles, qui a bien montré que l'espace de l'interconnaissance rurale, c'est 3 ou 4 communes, en moyenne, hein, à l'échelle hexagonale, 3 ou 4 communes au-delà du lieu où on est installé. En dehors, on est étranger. Hein. On peut même être... Parfois, je fais un clin d'œil à mon collègue Pierre-Louis, entre le Vercors Nord et le Vercors Sud, hein, qui aime bien s'opposer. Bon, c'est les guéguerres narcissiques contemporaines. Alors qu'en fait, ces territoires s'interpénètrent dans la gestion des terroirs depuis la nuit des temps. Mais il y a quand même l'idée que il y a des frontières. Alors la frontière, elle se réinvente tout le temps. Mais elle joue sur ce registre de l'opposition du dedans et du dehors. Quand on aborde la question migratoire, on a souvent recours à la métaphore de l'eau. Alors l'eau, c'est formidable parce que c'est ce qui donne la vie, ça fertilise, mais c'est pas cette image de l'eau qu'on utilise, y compris dans certains travaux scientifiques, anciens, moins aujourd'hui. Alors je vais jeter une petite pique à nos collègues démographes, mais l'INED, qui est aujourd'hui une institution tout à fait louable, mais dans les années d'après-guerre, elle avait un registre de vocabulaire qui était celui de l'eau. On parlait de flux, de courants, de vagues migratoires, et ça dit le nombre, en fait. Ça lie le nombre du déplacement. Et puis le problème, c'est que de la vague, on passe au tsunami, vous voyez, et c'est la force destructrice de l'eau. Formule malheureuse utilisée par un représentant de l'État en exercice à la frontière franco-italienne il y a quelques années. Donc vous voyez, autour de la question migratoire, le vocabulaire n'est jamais neutre, et donc il induit des représentations, des imaginaires, pour le meilleur et pour le pire. Avec un collectif de chercheurs, aujourd'hui, on travaille sur la notion d'indésirabilité. Parmi ces chercheurs, il y a une figure que vous devez connaître toutes et tous, qui est Michel Agier, qui a travaillé sur la figure de l'indésirable. Et ce qui est très troublant, c'est que un objet nommé désir, ça relève de l'émotion. Or, ce qui est très troublant, c'est que le mot indésirable, il est présent dans pratiquement tous les appareils constitutionnels des États-nations des années 1850 à nos jours, au Brésil, aux États-Unis, au Canada, en Europe évidemment, et ailleurs. Il y a un décret-loi de 1938 d'Édouard Daladier à la fin de la Troisième République déclinante qui considérait qu'il y avait dans la société française des indésirables en surnombre dans l'économie nationale. Et l'équipe de chercheurs avec qui on travaille tendra à montrer que l'indésirable, c'est pas simplement le subalterne, c'est-à-dire celui qui est tout au bout de la hiérarchie sociale, c'est aussi celui dont on peut se débarrasser physiquement et donc dont la mort peut être programmée. Donc il y aurait des citoyens désirables et des citoyens indésirables. Et cette notion ne cesse de se réactualiser, quand bien même aujourd'hui n'est-elle plus utilisée dans le langage de l'action publique, depuis la Seconde Guerre mondiale. Concernant également la problématique migratoire, il y a tous ces mots. Alors, c'est les mots magiques de l'intégration républicaine à la française. Liberté, égalité, fraternité, notre devise est magnifique. Et moi, j'y adhère bien volontiers. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça sur le terrain. Et c'est pas d'aujourd'hui. Il fut un temps où, y compris les chercheurs, alors la manière dont on appréhendait la question de l'immigré, de l'immigrant, c'était sous l'angle de l'assimilation. Et les chercheurs y croyaient à l'assimilation. Ça voulait dire dissoudre ces référents identitaires, ces signifiants, dans un modèle dit républicain qui serait lui-même jamais transformé et stable. Ce vocabulaire a été discrédité par la Seconde Guerre mondiale. Donc la pensée assimilationniste de Georges Moko, qui était un des grands théoriciens français qui opposait différentes catégories d'immigrés selon des degrés d'assimilabilité progressive, a été complètement discrédité par les preuves de la Seconde Guerre mondiale. Ici, fourvoyé dans le vichisme, et puis donc l'expérience du nazisme et du fascisme ont rendu cette pensée irrecevable. Mais elle revient aujourd'hui dans le vocabulaire public, et ça ne vous aura pas échappé. On a panthéonisé, il y a une quinzaine de jours, donc une figure majeure de la résistance française, Missak Manouchian, qui... probablement apatride, a été à un moment désigné comme indésirable dans les années 1930. Et puis, certains protagonistes de cette panthéonisation n'hésitent pas à dire « c'est un bon étranger qui s'est assimilé ». Ça revient. Et la formule, on l'entend aussi bien, alors là, à droite qu'à gauche, de l'échiquier politique. Donc, discrédit au sein de la recherche, mais recours à des formules comme ça, qui sont des formules magiques. Tout à l'heure, lorsqu'on a visité l'exposition consacrée à Cognat-les-Gorges, et je salue son maire, Patrice Ferruya, qui nous a permis de réaliser ce travail-là, je parlais de seuil de tolérance. Ça voudrait dire qu'au-delà d'un certain volume d'étrangers dans une société, la société serait contaminée, serait plus en capacité d'accueillir l'autre, elle serait, entre guillemets, contaminée. Cette formule, donc, qui était aussi utilisée par des chercheurs dans les années 70, elle a été évidemment critiquée depuis. Donc vous voyez, méfions-nous des mots. Parmi les mots qui catégorisent également la figure de l'exilé, de l'étranger, de celles et ceux qui n'ont pas forcément trouvé refuge, Il y a aussi la figure du clandestin. Alors c'est très intéressant puisqu'on est dans le Vercors et puis que pendant la Seconde Guerre mondiale, nombre d'individus fuyant le STO, service du travail obligatoire en Allemagne, sont entrés en résistance, enfin en clandestinité, puis ensuite peut-être pour une partie d'entre eux en résistance. La figure du clandestin, de ce point de vue-là, c'est le vocable est un mot positif. Renoncer à son identité sociale pour organiser la dissidence, si vous imaginez que les valeurs qui animent une société ne sont plus justes, c'est une valeur positive. En revanche, lorsque vous désignez des individus comme étant des clandestins, ça veut dire que vous faites d'eux des tricheurs. Ce sont les passeurs de frontières en situation irrégulière. Ce vocable, clandestin, il a fait florès à partir du moment où ont été mis en place des dispositifs de contrôle des mobilités à la frontière, notamment à la frontière franco-italienne que j'ai bien étudiée, fin 19e siècle. Donc on érige la catégorie du clandestin comme une catégorie de celles et ceux qui passent pas par les voies officielles, illégalement. Mais personne ne se désigne comme clandestin dans ce contexte-là. La figure du passeur, figure passionnante, et je reviens à la Seconde Guerre mondiale, le passeur pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'individu ou le groupe qui sauve des vies. Et là, je fais aussi un petit hommage à notre collègue Bernard Delpal. Il y a cet après-midi à Diolfi une rencontre qui lui rend hommage, qui a aussi disparu récemment, et qui fut un des spécialistes du sauvetage des familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait que dans le Royan, à Saint-Thomas en particulier, bon, il y avait le centre d'accueil de l'abbé Glasberg à Pont-de-Man. Il y a eu des personnes, de la secrétaire de mairie à des acteurs du monde agricole, qui se sont engagés dans le sauvetage des familles juives et qui ont permis qu'elle soit exfiltrée vers la Suisse notamment. Ben, le passeur, dans ce contexte-là, c'est une figure éminemment positive. Aujourd'hui, quand on dit passeur, on imagine organisation mafieuse, détournement de fonds, donc tricheur. Hein, oui. Donc c'est pour ça que les mots, il faut toujours, lorsqu'on aborde la question migratoire, les prendre avec beaucoup de pincettes. Idem pour la catégorie de l'immigré. Aujourd'hui, bon, ça irait de soi. C'est aussi une catégorie des pouvoirs publics. Voilà. C'est un individu qui vient louer sa force de travail et qui s'installe probablement au départ pour un temps ponctuel et puis ensuite qui aurait vocation à retourner chez lui. Hein, et puis ensuite qui va devenir un immigré, c'est-à-dire le moment où il s'installe à demeure dans la société dite accueillante. Donc je voulais dans un premier temps peut-être comme ça nous inciter à la prudence dans le recours au vocabulaire. Pour éviter effectivement qu'on soit sur ce registre du pur et de l'impur, du bien. Alors venons-en maintenant à la question migratoire. Je disais, elle est consubstantielle à l'humanité, donc on pourrait convoquer les sociétés de la préhistoire, qui sont des sociétés du nomadisme, accès aux ressources, donc circulation récurrente entre le bas pays et la montagne, en fonction des périodes plus ou moins de réchauffement climatique. On va pas aller aussi loin, mais tout ce qu'on sait, c'est que finalement, et je crois que Pierre-Louis Filet me démentira pas, on a une vision des Alpes, qui est une vision construite au XIXe siècle, notamment par le romantisme, comme étant une barrière infranchissable, avec une construction intellectuelle de la société des pays d'en haut comme étant une société autochtonisante, repliée sur elle-même, communauté de destin dans la montagne, comme ça. Et ça a été effectivement bien mis en œuvre par des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau, voilà, qui a esthétisé le peuple des montagnes, là. Et en définitive, on se rend compte que les sociétés de la montagne sont des sociétés de la mobilité. Ce soir, vous allez voir le film « Interdit aux chiens, aux Italiens », qui est la démonstration concrète de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que avant même la mise en place de l'État-nation, les gens de la montagne se déplacent. Alors, tout le monde ne se déplace pas dans un village, évidemment. Il y a des spécialistes de la migration. Alors, la migration, c'est pas forcément aller à l'étranger au sens de l'État-nation. Ça peut être aller dans le village voisin. Ça peut être se déplacer, par exemple, le phénomène de transhumance, que ce soit des transhumances locales, du village vers l'alpage, où on va passer 6 mois, par exemple, au beau jour, ou d'une région comme la Provence pour venir dans les préalpes dauphinoises ou les grandes Alpes de la Tarentaise ou de la Maurienne avec des troupeaux, c'est un acte migratoire. Et alors, ce qui est très troublant, c'est que jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, et c'est peut-être pour ça qu'on peut dire 100 ans de migration, la frontière entre ce qu'on appelle les mobilités intérieures et l'immigration internationale se discute. Quelqu'un qui est un piémontais curé à la chapelle en Vercors au XVIe siècle, ou un fromager suisse, par exemple, comme il y en eut, qui venait en particulier de la région de Fribourg, c'est les Alpes de Gruyère, dans les montagnes de Fondurle ou d'Ambel, où il y avait des familles Jais, donc dès le XVIIIe siècle, ou dans le massif des Écouges. Bon, ces travailleurs saisonniers, ces migrants saisonniers, n'étaient pas nécessairement considérés comme des étrangers au sens de l'État-nation tel que nous on les pense aujourd'hui. Ils étaient dans un contexte de mobilité alpine. Et donc, le paradoxe, c'est que quelqu'un, finalement, un maçon du Limousin qui émigre à Lyon au XIXe siècle, peut se sentir davantage étranger par sa trajectoire sociale à Lyon que ne l'est un piémontais dans le Vercors sous l'Ancien Régime. Ça, c'est très important. Hein. Pour toutes sortes de raisons, parce que... Donc, ayons bien en tête qu'il y a donc que les sociétés alpines sont des sociétés construites autour de la mobilité. Là, je vous renvoie aux travaux de Laurence Fontaine, hein, qui a montré vraiment que la mobilité n'est pas subie, qu'elle est une stratégie mise en œuvre par ces sociétés de montagne pour gérer la pénurie, gérer la ressource économique, etc., etc. Donc, mobilité ancienne et migration internationale s'harmonisent. Simplement, la fabrique de l'État-nation... Alors, nous, en France, on est un vieil État-nation, hein, bon, qui remonte même avant la Révolution française, mais qui trouve quand même son récit fondateur à travers la mise en place de notre démocratie et notre République. L'Italie, c'est plus récent, hein, c'est les années 1860. Et encore, à l'époque, encore en 1860, quand bien même il y a eu le Risorgimento, il y a une unification italienne, on appartient encore à sa région, à sa province. Et puis l'Italie ayant un autre modèle moins centralisateur que nous, on parle encore le dialecte régional, ce qui fait qu'effectivement, la question des appartenances, c'est une question très difficile à décrypter. C'est pour ça que moi, je déconstruis, je suis prêt à débattre avec qui veut, le mythe du Savoisien. Est-ce que quelqu'un qui habitait au fin fond de la Maurienne avait le sentiment d'appartenir à quelque chose qui s'appelait le royaume de Piémont-Sardaigne? J'en suis pas certain du tout. On est de Savallée. Et en plus, on peut être de Savallée et en même temps être aussi du Piémont. Je vous invite à visiter le musée de Barcelonnette, qui est de ce point le musée de la Vallée à Barcelonnette, qui montre les échanges historiques très anciens de part et d'autre des deux versants de l'Alpe, hein, entre la vallée de l'Ubaï et la région de Cuneo. Vous verrez ça aussi très bien expliqué dans le film d'Alain Huguetto. Voilà. Alors, j'ai parlé un peu rapidement donc des présences très anciennes des Suisses. Donc, en fait, c'est les spécialistes du monde agricole qui diffusent des savoir-faire. Les habitants de la région de la vallée de la Gruyère, on oublie que la Suisse est un pays d'émigration jusqu'à une époque relativement récente. Hein. Donc il y a 10% de la population des préalpes fribourgeoises qui a émigré dans l'Europe occidentale, en particulier dans le Dauphiné. Et donc c'était des super zootechniciens, donc ils ont modernisé les troupeaux dauphinois, et puis c'était aussi des super fromagers. Hein. Donc ils ont diffusé les recettes des fromages à pâte pressée, on va dire les gruyères pour faire simple. Bon, il y a un sujet que je connais bien qui est aussi celui des bergamasques, hein, maître ferrier ou charbonnier, qui sont souvent très associés. Une chose qu'on sait peu, c'est que la région de Milan, hein, est une des capitales de la métallurgie depuis la fin du Moyen-Âge, et donc... dans ce lieu de synthèse technique, cette grande métropole industrieuse de Milan, Brescia, toutes les villes autour, Bergame, il y a une tradition de la diffusion des savoir-faire, et donc on a des ingénieurs. Et donc, ça aussi, c'est très intéressant, parce que c'est pas simplement parce qu'on est pauvre qu'on émigre, on peut aussi émigrer parce qu'on a un savoir-faire qu'on va diffuser. Et donc, on a des ingénieurs qui viennent moderniser la métallurgie dauphinoise, notamment dans la région d'Alvar, en 1598, et vous avez des familles de maîtres ferriers, donc qui sont des industriels, qui s'installent dans la région d'Alvar, avec des patronymes qui vont faire sens dans le Royan, Gervasoni, etc., etc. Hein, donc, et ils viennent avec des cohortes de charbonniers. Donc on a comme ça, dans notre région, dès l'Ancien Régime, vraiment une présence importante, hein, de travailleurs de la forêt, de travailleurs du métal. Et puis au XXe siècle, il y a toutes les grandes tragédies du XXe siècle. Hein. Alors l'accélération des mobilités au XIXe avec la mise en place du chemin de fer, qui contribue, quand bien même il y a déjà mobilité, à accélérer, augmenter les flux de volume de circulation des marchandises et des individus. Hein, et puis ensuite la mise en place des routes. Donc effectivement, avec le XXe siècle, est vraiment la structuration des États-nations, accélération des mobilités à l'échelle européenne. Alors dans notre région, on voit arriver des immigrants. Alors durant l'entre-deux-guerres, dans la façade occidentale du Vercors, des Polonais, par exemple, hein, qui viennent travailler dans les exploitations agricoles, notamment aux Écouges. Ça, c'est très intéressant. Et puis, des travailleurs un petit peu... On est à Saint-Jean-Royan, qui est une petite ville industrielle. Hein. Il y a donc des ouvriers dans les métiers du bois. Alors, les industriels du bois jurassien sont-ils des étrangers d'un certain... Moi, je viens du Jura. Hein. Maillet-Saint-Claude, c'est des pas d'ici, quand même. Hein. Mais quand même, voilà, ils ont aussi modernisé l'industrie du bois à Saint-Jean. Donc, on peut considérer... vous voyez, comme ça qu'il y a une espèce d'accélération des flux, des mobilités. Et puis au XXe, les tragédies. Alors bon, je vais pas déborder sur l'exposé de Pierre-Louis. Peut-être dire quelques mots quand même de... Alors, pour faire le continuum, on va passer très vite sur la Seconde Guerre mondiale. En deux mots, puisqu'on est à Saint-Jean, l'accueil des républicains espagnols, hein, il y a donc à partir de... Dès 1937, hein, les premiers arrivent dans la région de Valence et puis de Saint-Jean. Et puis, il y a un sujet sur lequel j'ai particulièrement travaillé, qui était l'arrivée de ces femmes avec leurs enfants à Saint-Jean-Royan. Au moment de la retirada, il y a une photo absolument magnifique qui est présenté dans le petit bouquin que vous pourrez consulter ou acheter tout à l'heure si ça vous intéresse. On les voit fatigués au terme de la quarantaine. Et je trouve que et je vais conclure là-dessus, je trouve que cette image est extrêmement poignante de ces femmes épuisées au terme d'une errance au long cours, puisqu'elles sont passées après, alors certaines arrivaient du sud de l'Espagne, d'Andalousie, puis ensuite ont transité par Barcelone, puis par les camps de la Méditerranée. Alors, ils sont très connus aujourd'hui, ces camps du Roussillon, le camp de Rivesaltes, le camp de Gurs, le camp de Saint-Cyprien, d'Argelès. Et puis ensuite, les familles ont été éclatées, les époux sont allés travailler dans des chantiers, alors on en trouve à Brive-la-Gaillarde, un peu partout, les familles éclatées. Puis certaines sont arrivées avec leurs enfants en bas âge à Saint-Jean-Royan, où il y a eu un formidable comité d'accueil, animé par le futur maire de Saint-Jean-Royan, Benjamin Malossane, et les instituteurs. Alors c'est très intéressant parce que du point de vue sociologique, il y aurait peut-être des carrefours à tisser avec aujourd'hui. Voilà. Puis ensuite, il y a l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale. Pierre-Louis en parlera mieux que moi. Et puis peut-être dire, voilà, que l'histoire se poursuit. Donc on a abondamment parlé tout à l'heure des réfugiés du sud-est asiatique et puis d'autres qui ont trouvé refuge dans soit en zone rurale, soit dans les, n'oublions pas non plus les immigrés du Maghreb qui travaillent aussi en milieu rural, tous les représentants de l'immigration postcoloniale qui viennent consolider l'industrie française des Trente Glorieuses jusqu'en 1970. Alors ça, c'est très important de le savoir, c'est encouragé par le patronat et les pouvoirs publics. 70% des immigrants en France arrivent en situation irrégulière. On a un tel besoin de main-d'œuvre que ça ne pose aucun problème d'en arriver avec un visa touristique. Les Tunisiens qui arrivent dans le département de la Drôme, moi j'ai fait une petite enquête là sur les ouvriers agricoles qui viennent dans toute la vallée du Diwa, Crète, etc., Biovallée aujourd'hui, ils arrivent avec un visa touristique, voire pas de visa du tout. Et puis, ils sont plus ou moins régularisés. Si on ne les régularise pas, c'est aussi une manière de faire pression en disant pour qu'ils acceptent des salaires plus bas que les autres, etc., etc. Et c'est à partir de 1972, c'est la fin des Trente Glorieuses, juste avant la crise du pétrole de 73, qu'on va effectivement durcir l'appareil législatif. 72, c'est les circulaires Marcellin Fontanet, qui vont effectivement exiger que pour toute personne qui vient travailler en France, elle soit titulaire d'un contrat de travail en règle et d'un logement décent. Et à partir de là, donc, on va faire de la figure de l'immigré un des problèmes de société. Et c'est pas anodin, 72, c'est la création du Front National. Ou d'autres partis, encore plus le parti néofasciste Ordre Nouveau, par exemple, etc. Donc à partir de 72, donc dans la résonance de 68, l'immigration est pensée comme un problème de société et pas un problème intellectuel. Comme ça, j'ai bouclé la boucle. Et ça n'aura de cesse d'augmenter jusqu'à nos jours. Voilà, j'ai terminé.
Merci Philippe. Pierre-Louis, on va te laisser la parole.
Mais bonjour à toutes et à tous. À mon tour de vous exprimer tout le plaisir qui est le mien de m'exprimer modestement devant vous aujourd'hui. Marie l'a rappelé, je suis le directeur du musée de la Résistance à Vassieux. Je ne suis pas particulièrement spécialiste des questions d'étrangers dans la Résistance, mais j'ai néanmoins convoqué les quelques éléments dont on dispose s'agissant du maquis du Vercors pour essayer de traiter cette thématique. Alors, vous dire qu'on a la partie. Alors, je ne reviendrai évidemment pas sur l'histoire du Vercors résistant. On a néanmoins la particularité d'avoir des bases de données relativement précises s'agissant de ces résistants du Vercors. Et d'ailleurs, lesquelles bases de données vont donner lieu à la publication très prochainement d'un ambitieux dictionnaire biographique qui contiendra au moins 5000 notices biographiques publiées par quelqu'un qui s'appelle Maurice Blecher. Alors c'est un travail particulièrement ambitieux, pas toujours très simple, mais en tout cas je me suis largement appuyé sur les bases qu'il a compilées pour essayer de donner quelques éclairages sur cette question des étrangers dans le maquis du Vercors. La particularité du travail de Maurice Blecher, c'est qu'il s'appuie, donc il a dépouillé environ 5000 notices biographiques, et pour 4000 d'entre elles, on arrive à identifier précisément le lieu de naissance de ces personnes. Donc évidemment, c'est particulièrement intéressant pour essayer de voir la part des étrangers dans le maquis du Vercors et dans la résistance locale. Et donc si on s'intéresse à ces 4000 noms, 89% d'entre eux sont nés en France, 9% d'entre eux sont nés dans un pays étranger, et je donnerai la ventilation plus tard, et 2% d'entre eux sont nés dans l'empire colonial, essentiellement en Afrique, Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne. Donc 89%, mais quand même 9% entre 9 et 10% d'étrangers dans le Vercors résistant. Alors, pour essayer de donner quelques éclairages sur ces 9%, puis peut-être, si j'ai le temps, sur les 2%, puisque la question des troupes coloniales fait quand même partie des images d'Épinal qui sont largement accolées au Vercors résistant, hein, si on pense notamment aux tirailleurs sénégalais. Mais si on traite tout d'abord de la question des étrangers, pour comprendre un peu leur répartition, alors 41%, donc si on s'intéresse cette fois uniquement donc à ces 9% de résistants nés dans un pays étranger, 41%, et c'est pas une surprise, hein, sont italiens, 18% sont polonais et 9% sont nés en Espagne. Donc ça représente environ 400 personnes. Donc ça, c'est les tendances fortes, hein, donc Italie, Espagne et Pologne. On verra pourquoi. Mais après, dans le détail, on retrouve un certain nombre de pays. Vous avez ensuite des Allemands. Vous retrouvez évidemment des Russes, des Roumains, des Suisses, des Turcs. Tout un panel. Il y a une trentaine de nationalités qui sont représentées dans cet échantillon. Donc c'est assez intéressant quand même pour éclairer le propos, et ça appelle peut-être pour essayer de comprendre cette répartition, tout d'abord avoir en tête les éléments qu'évoquait Philippe, c'est-à-dire qu'il y a durant l'entre-deux-guerres et au début de la Seconde Guerre mondiale, il y a un certain nombre d'étrangers qui sont présents en France. C'est 5% de la population. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que 5% de la population, alors selon les statistiques de l'époque, hein, sont des personnes étrangères. Et donc du coup, on en retrouve quand même 10% dans la résistance. Donc il y a quand même une surreprésentation de ces personnes dans la résistance. On verra rapidement pourquoi. Parmi donc ces 5%, donc c'est 2,2 millions sur 42 millions d'habitants. Et parmi eux, on retrouve officiellement 700 000 Italiens, 430 000 Polonais et 250 000 Espagnol, donc on retrouve, hein, la répartition que j'indiquais s'agissant du maquis du Vercors. Donc évidemment, ça c'est une immigration qui a été simulée largement par les questions de reconstruction liées à la fin de la Première Guerre mondiale, donc une forte immigration économique durant l'entre-deux-guerres. Mais à côté de ces migrations économiques avec les trois nationalités que j'ai évoquées, on trouve également un certain nombre de personnes qui se retrouvent réfugiées en France du fait du tumulte de l'entre-deux-guerres. Et on retrouve ainsi un certain nombre de personnes qui fuient le régime autoritaire de l'Europe de l'Est. On trouve notamment un certain nombre de juifs qui fuient l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud. On retrouve également, bien sûr, des Arméniens, on en a parlé. Donc finalement, c'est aussi toutes ces nationalités qu'on va retrouver dans le Vercors résistant. Ce qui est intéressant ensuite, une fois qu'on a donc brossé rapidement ce canevas général, c'est qu'on s'intéresse plus spécifiquement à la place des étrangers donc dans la résistance. J'indiquais donc qu'il y a effectivement une surreprésentation en nombre d'étrangers dans la résistance pour deux raisons principales. Enfin, tout d'abord parce qu'effectivement la plupart de ces étrangers se retrouvent en situation, notamment dès lors que le régime de Vichy est instauré en France, en tout cas dénoncé, voire pourchassé, ou en tout cas fortement contrôlé. Et puis il y a d'autre part chez ces personnes une forme de surpolitisation qui les conduit plus naturellement que d'autres dans les rangs de la résistance, notamment pour poursuivre les combats contre le nazisme contre le fascisme. Et donc on trouve une part importante de ces personnes étrangères dans la résistance. Alors les trois principaux pôles de résistance étrangère en France, donc vous avez donc évidemment toutes celles et ceux qui rejoignent les rangs de la France libre. Vous avez la résistance communiste et avec les FTP Moy, bon, on en a largement parlé avec Manouchian. Et il y a également une part non négligeable qui concerne particulièrement le Vercors de résistance polonaise non communiste. Et si on en vient donc justement à la question de... Alors avant cela, je conclue en citant Denis Péchanski qui indiquait que les étrangers tiennent une place très importante dans la résistance sans comparaison avec le poids qu'ils représentent dans la société. Et donc ça, on le retrouve évidemment dans le Vercors. Philippe l'a évoqué, hein, le territoire a toujours été très largement ouvert sur l'extérieur de tout temps. Hein, c'est consubstantiel. Enfin, dès lors que l'homme a occupé la montagne, ces sociétés ont été ouvertes sur l'extérieur. Et on retrouve durant la Seconde Guerre mondiale beaucoup de personnes, enfin, il y a un brassage de populations assez exceptionnel dans le Vercors durant la Seconde Guerre mondiale. Donc Philippe a évoqué tous les étrangers qui se trouvent déjà notamment dans le Vercors dès l'entre-deux-guerres du fait de pour faire tourner l'activité l'activité touristique. On retrouve des Espagnols, on retrouve des Indochinois qui vont être durant la Seconde Guerre mondiale employés dans les forêts du Vercors. On retrouve bien évidemment des Italiens, mais on retrouve aussi, si on pense à ce qui se passe en 1944, des troupes allemandes qui vont arriver en nombre, parfois avec leurs supplétifs russes, ukrainiens, de l'Europe de l'Est. Et on retrouve aussi, finalement, donc ça c'est pour les personnes qui n'ont pas nécessairement la nationalité française, mais on retrouve aussi beaucoup dans la région des personnes déplacées, notamment du nord de la France. Il y a dans le maquis du Vercors une surreprésentation des Mosellans, qui sont effectivement toutes ces personnes qui ont fui la Moselle dès lors que l'Allemagne a occupé le nord de la France. Et on pense notamment à Paul Janssen, qui est sans doute l'un de ceux qui étaient les plus connus autour de la MJC de Romans. Donc si on s'intéresse plus rapidement, je ne sais pas l'heure qu'il est, mais il faut que je fasse vite, mais quand même quelques éléments rapides. Il y a une spécificité, c'est les Polonais. Les Polonais, c'est le lycée polonais Cyprian Norwid, alors qu'il s'était implanté en région parisienne, qui fuit Paris dès 1940, qui vient s'installer à Villard-de-Lans. Ce qui est intéressant avec le lycée polonais, c'est avant même l'aventure du Vercors résistant, les élèves du lycée polonais qui se trouvent à Villard s'impliquent fortement donc dans les réseaux de résistance polonaise en France, puisque depuis 1939, Hitler et Staline s'attellent à la destruction de ce qui incarne la nation polonaise. Et il y a une très forte résistance polonaise en France pour préparer aussi la suite et pour notamment continuer à faire perdurer à l'étranger la nation polonaise. Donc il y a un mouvement de résistance extrêmement structuré qui agit en France et qui est particulièrement actif au sein du lycée Cyprian Norwid de Villard-de-Lans. Dès 1940, deux directeurs du lycée vont d'ailleurs être arrêtés et l'un d'eux va mourir en déportation. Donc un engagement extrêmement précoce dans les mouvements de résistance polonaise. Et puis donc le lycée polonais, on retrouve un certain nombre d'élèves quand on avance en 1944 dans le maquis du Vercors. Parce qu'à partir de juillet 1944, toutes les classes d'âge de 18 à 24 ans sont mobilisées. Les jeunes bacheliers du lycée Cyprian Norwid qui venaient de terminer leur année scolaire vont rejoindre le maquis du Vercors. Ils vont être envoyés notamment à Vassieux en Vercors et un certain nombre d'entre eux périssent à Vassieux en Vercors lors de l'offensive allemande du 21 juillet. Donc cette présence polonaise, puisque Marie indiquait qu'il fallait aussi évoquer peut-être quelles en étaient les traces. Il me semble les traces actuelles, la mémoire du lycée polonais me semble quand même relativement prégnante et présente quand on évoque la question du Vercors résistant, aussi parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs extrêmement actifs. Je pense à Stéphane Malbos et puis qui a publié, qui produit un certain nombre d'expositions temporaires. Donc c'est quand même une mémoire qui est relativement présente dans la mémoire du Vercors résistant. Alors ensuite, si on regarde, donc j'ai passé en revue cette longue liste de 400 noms pour essayer de voir quels pouvaient être les parcours intéressants. On retrouve beaucoup d'Italiens, bien évidemment, je vous l'ai dit, c'est la première. Alors après, c'est particulier parce que la base de données s'intéresse au lieu de naissance. Donc effectivement, vous avez 41% des personnes qui ne sont pas nées en France qui sont des Italiens, mais beaucoup d'entre eux ont néanmoins été naturalisés durant l'entre-deux-guerres. Donc effectivement, le terme d'étranger n'est sans doute un peu mal à propos, mais en tout cas, si on s'intéresse uniquement au lieu de naissance, eh bien on retrouve bien évidemment nombre d'Italiens dans le maquis du Vercors, et notamment des Italiens qui se déplacent souvent en nombre, en famille. On retrouve par exemple des familles Carniel, un nom qui parle ici, et qui sont nés à Ormeux en Italie, et puis les trois frères, donc Émile, Jean et... trois frères qui se retrouvent dans le maquis du Vercors. On retrouve pareil d'autres individus. Je passe parce que sinon je passerai trop de temps. On retrouve également beaucoup d'Espagnols. Philippe l'a évoqué, donc j'ai regardé notamment ceux qui avaient un lien dans le Royan, avec le Royan. Donc on en retrouve un certain nombre qui ont des liens avec Saint-Vincent de Charpé et également d'autres avec Saint-Jean-en-Royan, notamment Monsieur Gomez et puis Monsieur Goni Balana Manuel, qui sont à Saint-Jean et à Auriol, et qui rejoignent parmi bien d'autres le maquis du Vercors. On retrouve également un certain nombre de Juifs allemands qui ont fui donc l'Allemagne nazie dès les années 1930 et qui se retrouvent dans le Vercors, notamment Heinz Bamberger, donc qui naît à Berlin, qui rejoint donc la France, qui s'engage dans la Légion étrangère en 1939, qui rejoint le maquis du Vercors et puis qui est sommairement exécuté et qui perd la vie à Rancurel en Isère le 25 juillet. Des Juifs d'Europe de l'Est, notamment Frédéric Blecher, alors qui était le père de Maurice Blecher, hein, la personne dont je parlais et qui va produire le dictionnaire biographique sur les maquisards, qui a fui donc lui la Hongrie et qui exerce en France dans les années 30 et qui rejoint la résistance. Eugène Samuel, qui est alors un grand nom, hein, qui est parti de ceux qui ont précocement organisé la résistance et le maquis du Vercors. Eugène Samuel, pareil, était né en Roumanie et a exercé donc dès la fin de l'entre-deux-guerres l'activité de médecin à Villard-de-Lans. Des Arméniens, mais je passe rapidement. On a fait un travail avec Philippe pour essayer de cerner la communauté arménienne dans le maquis du Vercors. Il y en a effectivement un certain nombre et quelques fratries de Manoukian notamment qui se trouvent présents dans le maquis du Vercors. Et puis on trouve également un certain nombre, parce qu'il y avait quand même beaucoup de Russes, d'Ukrainiens, alors beaucoup, enfin un nombre non négligeable de Russes, d'Ukrainiens et de personnes de l'Europe de l'Est, et parmi eux un certain nombre de déserteurs de l'armée allemande. Voilà, donc notamment René Vélan, alors lui qui était luxembourgeois, Morozov Paul, qui lui était russe, qui avait été enrôlé de force dans l'armée allemande, qui déserte à Saint-Vallier et qui rejoint le maquis du Vercors, au sein duquel il participe au combat des Écouges. Et puis un certain nombre de personnes également, des Slovènes, pareil, qui avaient été enrôlés de force dans la Wehrmacht, qui vont donc parvenir à s'enfuir, qui rejoignent le maquis du Vercors et qui, pour nombre d'entre eux, périssent lors de l'assaut allemand contre le maquis de Malval en janvier 1944. Voilà, comme je voudrais quand même dire deux mots et que l'heure retourne, deux mots me semblent importants sur la question des troupes coloniales, puisque parmi les... Enfin, je l'évoquais tout à l'heure, hein, la mémoire des tirailleurs sénégalais a quand même été largement entretenue. Il y a effectivement 2% donc des résistants qui sont donc nés en Afrique essentiellement et qui font donc partie du maquis du Vercors, et parmi eux une cinquantaine de tirailleurs sénégalais qui, comme beaucoup, avaient été enrôlés au début de la Seconde Guerre mondiale, qui se trouvent donc en France métropolitaine à la fin de la guerre, qui sont faits prisonniers de guerre, qui vont ensuite donc travailler dans un certain nombre, alors soit d'usines, soit dans des usines d'armement. Et une bonne cinquantaine d'entre eux se trouvent emprisonnés donc en juin 1944 donc à la Doua, à Lyon. Une opération va permettre de les délivrer. Donc c'est des résistants du Vercors qui quittent le Vercors, qui vont à Lyon. Une opération qui réussit. Et donc il y a 52 tirailleurs sénégalais qui donc rejoignent le maquis du Vercors et qui sont qui participent donc au combat de l'été 44. Et l'un d'eux perd la vie lors des combats de la libération de Romans. Si ces individus, enfin, si l'aventure de ces tirailleurs sénégalais est particulièrement connue, c'est qu'elle a été abondamment filmée, hein, puisque la particularité du maquis du Vercors, c'est d'avoir reçu une équipe de caméramans dès donc le mois de juin 1944, avec la volonté d'immortaliser ce qui se passait dans le Vercors. Et le caméraman en question, Félix Forestier, va filmer l'arrivée de ces tirailleurs sénégalais. Notamment, il y a une séquence où on les voit franchir les grands goulets. Et donc, ces séquences, ce matériau va être utilisé dans le film Au cœur de l'orage, hein, qui est produit par Jean-Paul de Chanois en 1948. Et donc, voilà, la mémoire des tirailleurs sénégalais. Alors, je dis tirailleurs sénégalais... Le terme est un peu impropre, hein, puisqu'ils sont, en fait, il y a quelques Sénégalais, mais il y a finalement dans ces tirailleurs, il y a donc 14 Sénégalais, 7 Ivoiriens, 9 Guinéens, 4 Soudanais et 3 Gabonais, et puis une personne qui était née également dans le royaume de Dahomey. Donc voilà, c'est en tout cas des personnes de l'Afrique noire, et donc effectivement qui vont être largement filmées et qui participent activement donc au combat de la libération, notamment de la libération de Romans. Donc si cette histoire vous intéresse, je peux vous conseiller la publication d'un ouvrage tout récent qui s'appelle « Les Sénégalais du Vercors ». Quelqu'un qui s'appelle André Bouisson, qui a fait un travail assez remarquable de compilation de sources, et qu'on devrait avoir le plaisir de recevoir au musée au mois de juin, sans doute, pour le 80e anniversaire de l'arrivée des tirailleurs sénégalais dans le Vercors à la fin du mois de juin 1944. Voilà.
Merci. Merci beaucoup Philippe et Pierre-Louis. Alors là, c'était une partie historique. On va maintenant s'intéresser à aujourd'hui. Nous, on a notre petite expérience ici dans l'Orient à Air. Depuis 10 ans, on essaye de faire vivre cet accueil, cet accompagnement des personnes exilées. Mais il y a beaucoup d'initiatives et heureusement, on en est très heureux. Donc je vais laisser la parole maintenant à Aurélie Charras de l'association La Trame à Di, qui va nous présenter, elle, leur action aujourd'hui.
Oui, ben bonjour à tous. Merci de m'avoir d'accueillir et de me permettre de présenter le projet qu'on a sur le territoire du Diwa. Donc on n'est pas très loin, en fait on est de l'autre côté du Vercors, au pied du Vercors, alors on est une toute jeune association qui est née en 2022, qui ont fait notre AG lundi et tout ça pour parler, parce qu'en 2 ans on a fait énormément de choses. L'association est née en fait d'un collectif qui était déjà très mobilisé. En fait, le territoire du Diwa a connu ces dernières années en fait un moment 2017, 2018, 2019 avec énormément de passages en fait de gens qui arrivaient de Gap et de Briançon, beaucoup de mineurs dans le Lot et qui cherchaient des endroits où se poser et voilà. On avait beaucoup d'appels des associations existantes déjà, le refuge à Briançon ou à Gap et tout ça, disant « nous, on peut plus, on est débordés, est-ce que vous pouvez accueillir ?» et tout ça. Et naturellement, le Diwa, c'est un territoire de passage, je n'ai pas la connaissance aussi précise, historique et tout ça, mais c'est une terre d'exil, il y a toujours eu de l'immigration. Naturellement, des familles se sont proposées et sans forcément créer une association, en fait, il y a un collectif qui s'est monté et qui a pu loger et accompagner, notamment pour des mineurs, en fait, parce que à partir du moment où il y a des mineurs sur le territoire, en fait, ils peuvent être pris en charge par l'ASE. L'association de jeunesse, voilà, l'aide sociale à l'enfance au niveau du département. Et donc, il y a eu cet accompagnement-là aussi pour ces jeunes et tout ça. Et voilà, depuis 5-6 ans, on a des personnes, beaucoup qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, mais pas que. Et on a accueilli ces personnes. Mais pour certains, alors je ne fais pas partie des fondatrices de la TRAM, des membres fondateurs de la TRAM, mais pour certains, cet accueil n'était pas suffisant, en fait. Loger une personne, ce n'était pas suffisant et il n'y avait pas de structure, en fait, sur le Diwa qui permettait ça. Du coup, il y a quelques personnes, en fait, qui se sont rencontrées, qui ont réfléchi et qui ont dit on aimerait pouvoir apporter plus, en fait, que de l'hébergement. Mais peut-être aussi apporter de l'activité solidaire, apporter autre chose pour que les personnes qui arrivent là puissent aussi commencer à construire leur vie, leur parcours en France, en fait. Ces personnes-là ont sillonné. C'était des personnes assez engagées déjà à la CIMAD ou au refuge, qui faisaient souvent des maraudes à Briançon et tout ça, donc qui avaient quand même une connaissance de la situation de ces gens en grande précarité qui, parce que administrativement en fait ne sont pas reconnus et n'ont pas de papiers et tout ça, les mettent dans une grain de précarité, en fait. Et du coup, c'est comme ça que la trame est née, voilà, et qu'elle a pu commencer à se structurer. Donc, depuis 2 ans, en fait, on héberge alors des personnes. Alors, ça a fluctué le nombre parce que au départ, on avait juste un appartement qu'on louait. Après, on nous a mis à disposition. Il y a des habitants du Diwa qui avaient acheté un appartement, qui ont mis à disposition de la trame cet appartement. L'année dernière, on a pu acheter, en faisant appel à des prêteurs solidaires, on a pu acheter un appartement. Donc aujourd'hui, voilà, on a 6 places. Alors du coup, effectivement, Marie me disait, à la différence peut-être d'ici, c'est vrai que du coup, on accueille plus des personnes célibataires, des adultes par contre, hein, parce que en fait, la spécificité quand même de la trame et peut-être d'autres structures, mais là, c'est... La spécificité, c'est que c'est un engagement, en fait. C'est un engagement de leur part, de notre part. Nous, on s'engage à leur proposer un hébergement décent, de leur proposer des activités solidaires pour qu'ils puissent commencer peut-être à apprendre des choses ou professionnellement, voilà, de les accompagner d'un point de vue juridique. Et de leur côté, eux aussi s'engagent, en fait, à participer à ces activités solidaires, à participer un peu à la vie de l'association et ce qu'on a appelé la vie communautaire. Ces personnes exilées, en fait, qui passent par la trame, on les appelle les compagnons, en fait. On s'est beaucoup inspiré des Emmaüs, parce que les Emmaüs sont déjà, depuis beaucoup plus longtemps que nous, en fait, obtenu un agrément qui s'appelle OACAS. L'OACAS, en fait, c'est un agrément qui est donné par l'État. C'est des initiales, ça veut dire organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire. En fait, à partir du moment où on obtient cet agrément de l'État, on peut indemniser, voilà, proposer une activité solidaire et à la fois indemniser les personnes, ces personnes-là, et commencer à constituer un dossier qui pourra permettre par la suite de pouvoir régulariser la situation. Alors bien sûr, c'est pas, on ne le garantit pas. C'est toujours les préfectures et les préfets qui décident oui ou non si ce dossier est régularisable ou pas. Mais ça facilite en fait largement, voilà, tout ce qu'il y a au niveau administratif. Alors cet agrément, nous, on l'a pas encore. On espère l'obtenir ce printemps, au mois d'avril. Mais voilà, donc pour l'instant, en fait, on est une association comme vous, qui accueille, qui a pas de subvention parce qu'on accueille un public, en fait, qui est pas reconnu, en fait. Donc on peut pas obtenir, c'est pas comme un établissement social, en fait, qui aide des personnes en grande précarité et qui ont statut, des papiers et qui, voilà. Donc on a surtout obtenu des aides plutôt de fondations, de privés, et puis des dons, voilà, pas mal, et voilà. Donc les activités solidaires, en fait, c'est par rapport au Diwa, par rapport au territoire et tout ça, on a développé plutôt des activités de cuisine, voilà, et des activités d'espace vert. À chaque fois, ces activités sont encadrées par des personnes, des professionnels. Donc ça permet aux compagnons, s'ils sont pas certains, en fait, ont un peu découvert l'activité espace vert, ils connaissaient pas forcément la taille ou quoi que ce soit, et ils ont pu et pareil au niveau de l'activité cuisine. Voilà le fonctionnement, j'ai fait le tour. Il faut se dire, voilà, que pour eux, cette association, ça leur permet de se poser un temps. On a 2 appartements, donc de 3 places chacun. Donc ils ont, ils ont leur chambre et voilà. C'est pas la solution idéale non plus. Et depuis le départ, on a quand même eu déjà des départs et des choses comme ça parce que beaucoup aimeraient, dans le meilleur des cas, avoir un vrai travail, en fait, un travail rémunérateur, en fait, ce qu'on peut pas leur proposer. Voilà, il chemine. C'est un moment de passage et tout ça, mais en tout cas, voilà, c'est un engagement des deux côtés, et on comprend tout à fait le souhait qu'ils ont de cheminer, d'aller de voir autre ailleurs. Voilà, ça dépend, c'est un peu des parcours des personnes. Et voilà, et quand on a une place qui se libère parce que quelqu'un est parti et tout ça. Du coup, on travaille beaucoup en réseau avec les autres structures d'accueil. Et donc, on dit qu'il y a une place qui se libère. Et du coup, voilà, quand on reçoit les personnes, généralement, on se donne 2-3 semaines d'essai, en fait, où ils ne sont pas encore accueillis dans les appartements, mais ils sont accueillis chez l'habitant. Et voilà, c'est pour tous le moyen d'apprendre à se connaître, pour voir si ça lui convient ou pas, voilà. Parce que les activités solidaires, en fait, il y a quand même 2 demi-journées par semaine, en fait, où les gens sont, les compagnons doivent venir et tout ça, voilà, pour que ça cadre un peu le chose. Et puis là, on a des départs, par exemple, en ce moment, parce qu'en fait, ils ont trouvé un travail. Donc leur situation commence à se régulariser un peu plus et tout ça. À partir de ce moment-là, ils libèrent la place en fait et ils peuvent de eux-mêmes en fait prendre un appartement. Donc c'est vraiment on priorise vraiment les personnes en grande précarité et voilà. Oui, je répondrai peut-être aux questions après s'il y a voilà. Mais en tout cas, merci de.
Merci beaucoup. Merci. Je vais laisser maintenant la parole donc à Céline Barré qui va nous parler de ANVITA, donc l'Association nationale des villes et territoires accueillants.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez assez bien, ça va? Ok, donc l'ANVITA, Association nationale des villes et territoires accueillants, c'est un réseau de collectivités, à la fois des villes, des villages, des départements, des régions. On s'est créé en 2018 à l'initiative de Damien Carême, qui était le maire de la ville de Grande-Synthe. Alors, c'est assez loin d'ici, mais en tout cas, c'est entre Calais et Dunkerque. Et c'était un maire qui était très engagé sur la question de l'accueil des personnes exilées qui tentaient le passage vers l'Angleterre. Mais l'État étant complètement absent, les personnes vivaient dans des conditions très déplorables. Donc, il a créé un camp de réfugiés avec Médecins Sans Frontières, voilà, pour prendre la situation en main. Et il s'est déclaré maire accueillant, même si c'était des personnes qui n'avaient pas vocation à s'installer sur son territoire, qui avaient vocation à rejoindre l'Angleterre pour plein de raisons différentes. Donc, il a créé ce camp de réfugiés et il a fait un appel aux autres villes, aux autres territoires de France pour savoir qui souhaitait aussi s'engager en tant que ville et territoire accueillant. On a démarré, on était 6 collectivités, dont la ville de Grenoble, qui était ville fondatrice. Aujourd'hui, on est 88 collectivités. La plus petite collectivité, c'est Auslon, dans la Drôme, 14 habitants, jusqu'à la région d'Occitanie. Voilà, c'est ça. Et on a aussi des élus à titre individuel. On a des élus, par exemple, d'Hénin-Beaumont, qui est donc la ville, le terreau de Marine Le Pen, des élus à titre individuel qui se sentent parfois isolés aussi dans des conseils municipaux qui sont réticents à l'accueil et qui donc rejoignent le réseau pour aussi se former, s'informer et puis se sentir aussi appartenir à un réseau qui porte sur la question de l'accueil inconditionnel. Donc ça a été créé par Damien Carême. C'est donc il est aujourd'hui coprésident avec Jeanne Barseguian, qui est la maire de Strasbourg. On se veut être multipartisan. Je vous cache pas qu'on a surtout des villes et des territoires plutôt de gauche. Mais on a aussi des collectivités de droite et du centre. Dans la Drôme, on a Mirabel et Blacon, la ville de Die, la communauté de communes du Diwa, Dieulfi. On n'a pas encore de collectivité dans le Royan. Donc merci pour l'invitation. Et pour adhérer, c'est pas juste une adhésion, on prend sa carte. En fait, il faut voter faire voter l'adhésion en conseil municipal. Et donc, il faut débattre de l'accueil inconditionnel, dans le sens où, au-delà du statut juridique ou de la nationalité, comment une ville, un village, un territoire se positionne politiquement sur la question de l'accueil de toute personne au-delà du statut et de la nationalité. Donc en France, l'État est régalien sur la question de l'accueil et de l'intégration, mais nous, on est aussi là pour rappeler que les villes ont des devoirs et des compétences en matière d'accueil, que parfois il y a un flou, il y a peu de discussions entre l'État local et les collectivités. Donc nous, on est aussi là pour les accompagner, pour former les élus, les agents, à mettre en place des dispositifs, et puis d'aller aussi chercher un peu partout sur les territoires les pratiques accueillantes qu'on essaie de valoriser et de faire essaimer sur d'autres territoires. On a des villes et des collectivités qui sont complètement isolées aussi face à des situations que l'État devrait assumer. Il y a l'exemple bien sûr de Grande-Synthe, mais la plupart des villes ont des vraies difficultés de dialogue avec l'État, ont parfois des difficultés aussi à travailler avec les associations locales. Il y a parfois une incompréhension aussi des rôles de chacun, des assos qui œuvrent sur le terrain jour après jour et qui voudraient que la collectivité fasse plus. La collectivité qui ne sait pas quoi faire, la collectivité qui a des compétences, mais parfois elle peut pas dépasser ses compétences. Donc il y a tout un enjeu aussi de rôle et d'acteurs qu'on essaie aussi d'accompagner pour expliquer qui peut faire quoi dans un contexte où ce serait à l'État de faire, mais l'État ne fait pas. Alors pour nous, être une ville accueillante, c'est déjà donc d'avoir un positionnement clair et assumé sur la question de l'accueil inconditionnel. C'est de mettre en place des dispositifs et des projets qui sont ouverts à tous, dont les publics précaires et dont les publics exilés. C'est mettre en place et soutenir des projets d'accueil inconditionnel, et c'est aussi et avant tout travailler avec les associations locales. Donc nous, on est là pour permettre parfois aussi aux collectivités qui ont pas forcément de vision sur qui est sur son territoire. Par exemple, on a la métropole du Grand Lyon ou des régions, et qui ont beaucoup de mal à cerner les publics étrangers qui sont sur leur territoire. Donc on les accompagne à faire des diagnostics aussi, de faire un état des lieux de ce qui se fait déjà, comment les projets des assos peuvent être valorisés. Donc on en fait aussi de l'échange de pratiques, et puis on mène un plaidoyer au niveau national. Le dialogue avec l'État, je peux pas vous cacher qu'il est très compliqué, encore plus quand c'est Monsieur Darmanin qui est ministre de l'Intérieur. On a eu un dialogue avec l'État quand les réfugiés ukrainiens sont arrivés. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un dialogue avec l'État pour aborder les autres publics exilés. Voilà, on mène un plaidoyer aussi sur les enjeux de la montée de l'extrême droite, notamment au milieu rural, et la pression aussi des élus sur cette question. Voilà, et puis ensuite, nous, on accompagne les collectivités pour qu'elles mettent en place des projets. Alors, je peux vous citer quelques idées, mais on mène des cérémonies de parrainage républicain un peu partout en France le 18 décembre, donc Journée internationale des personnes migrantes. Pour des parrainages, on tente de mobiliser les élus pour qu'ils puissent eux-mêmes parrainer des personnes et de montrer que peu importe si la personne est sans papier, déboutée, en demande d'asile, réfugiée, en situation irrégulière ou régulière, comment la mairie en fait les accueille au sein de son institution et les met en lien aussi avec les associations. On travaille aussi sur la carte de citoyenneté locale ou carte de citoyenneté de résidence. C'est à partir du principe que même si on n'a pas de papier, les bibliothèques sont ouvertes, les lieux publics doivent être ouverts, et que on n'est pas obligé de toujours devoir justifier par un papier le fait qu'on habite la ville, même si on n'a pas un lieu de résidence officiel. Donc c'est notamment Villeurbanne qui travaille là-dessus, et d'autres villes là qui rejoignent aussi la dynamique pour travailler sur une carte de la ville qui permette de se sentir résident. Et puis on accueille aussi sur la mise en place de choses plus concrètes, de lieux d'accueil de jour, d'hébergement d'urgence. C'est toujours un enjeu de financement. Et donc on travaille aussi avec des fonds de dotation qui peuvent aussi accompagner les collectivités à mettre en place ce type de projet en lien avec les assos. Sur l'enjeu aujourd'hui de l'ANVITA, ou en tout cas des collectivités, et surtout les collectivités en milieu rural, c'est ce que je disais, c'est la montée de l'extrême droite. Ça fait un an qu'on travaille sur ce sujet, on l'avait pas anticipé. C'est notamment Callac et Saint-Brévin qui nous ont vraiment alertés. Callac, juste pour rappel, c'était l'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc un dispositif d'État, avec dans la ville de Callac, et il y a eu une montée de l'extrême droite. Alors c'était pas forcément l'extrême droite locale, c'était organisé au niveau national, des multiples manifestations, des pressions sur les élus, sur une élue en particulier. Saint-Brévin, c'est l'incendie de la maison, enfin en tout cas de la voiture qui est à côté de la maison du maire de Saint-Brévin. Donc il y a un vrai enjeu aussi pour les maires de pouvoir les soutenir, parce que c'est compliqué parfois d'assumer politiquement et publiquement le fait qu'en fait on veut accueillir des personnes exilées. Donc c'est aussi pour montrer qu'un réseau existe et qu'on peut soutenir politiquement. Par rapport à l'ANVITA de manière assez brève, dans la Drôme, donc nous on a deux antennes, on a une antenne à Nantes et une antenne à Cré. Cré n'est pas membre de l'ANVITA, peut-être aux prochaines élections, mais en tout cas c'est pas le cas. On m'a demandé d'intervenir un peu sur la question des CTAI, donc les contrats territoriaux d'accueil et d'intégration, qui est en fait un dispositif de l'État pour mettre en place des projets, enfin en tout cas financer des projets sur la question de la santé, du logement, de l'emploi, de l'apprentissage, de la langue, la mobilité, la parentalité. Donc ça, c'est un dispositif d'État qui ne concerne que les publics primo-arrivants, c'est-à-dire les personnes en France depuis 5 ans et en situation régulière, et les personnes réfugiées statutaires. Il y a eu une vraie dynamique au niveau de la Drôme par les associations locales, et je salue notamment le Redar qui est ici, qui ont porté vraiment cette initiative d'aller impulser cette dynamique auprès des communautés de communes de la vallée de la Drôme, donc les 4 Comcom du Diois, de Cré, d'Yeulphy et une troisième, et vallée de la Drôme, et pour pouvoir essayer de créer du lien entre les collectivités, les associations locales, avec ce financement de l'État. Donc nous, on a mené un diagnostic en lien, enfin il y a eu un premier diagnostic fait par les associations. On a retravaillé un second diagnostic pour mettre en lumière les difficultés, les enjeux, tous les projets existants, les publics aussi qui étaient présents, et de montrer aussi qu'il y avait des enjeux de renforcer les projets et les financements autour de l'accès au droit, droit à la santé, à la santé mentale, l'interprétariat, la mobilisation aussi de logements vacants, l'apprentissage de la langue, l'accès à la formation et l'insertion professionnelle, et puis de tenter aussi d'accompagner les communautés de communes à prendre en compte le fait qu'elles ont des compétences en matière de petite enfance, de jeunesse, de mobilité, d'action sociale, qu'elles peuvent mettre aussi à disposition de ces publics-là. Alors aujourd'hui, il y a des limites dans ce genre de dispositif parce que ça exclut de fait certains publics. Les personnes qui sont en demande de régularisation, les personnes qui sont en situation irrégulière. Donc ça, c'est quand même un enjeu qui est clair parce que donc ça ne concerne que des publics en situation régulière. Il y a une vraie lenteur dans le processus parce que ça vient de l'État central, que l'État local n'est pas forcément informé, n'a pas forcément l'habitude aussi de travailler avec ces publics-là. Donc il faut passer du ministère, de la délégation interministérielle, de la sous-préfecture, de la direction départementale, des collectivités et des associations locales. Donc il y a tout un processus qui fait qu'on perd à un moment donné la dynamique, et c'est le cas aussi suite au diagnostic fait dans la Drôme. Et c'est un dispositif d'État qui est certes à valoriser, parce que ça montre l'engagement de l'État en matière d'accueil et d'intégration, mais dans un contexte quand même de loi asile et immigration qui prend le dessus sur tous les autres dispositifs, qui restreint l'accès aux droits des personnes exilées, qui ne va faire que augmenter les expulsions parce que difficulté de régularisation, ou en tout cas volonté politique de baisser les régularisations. Un amalgame de plus en plus présent entre étrangers et délinquants. Et une loi qui a relancé le débat du Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen autour de la préférence nationale et la mise en concurrence des publics précaires français et des publics précaires étrangers. Et ensuite, mise en concurrence entre les publics étrangers en situation régulière et les publics étrangers en situation régulière. Et aussi cette loi qui amène à la baisse des budgets, des subventions et des associations locales aussi qui sont là pour maintenir les conditions de vie qui sont de plus en plus précaires pour ces publics-là. Donc je m'arrête là si vous avez des questions, mais en tout cas, continuons la lutte pour un accueil inconditionnel entre l'ensemble des acteurs, que ce soit les associations, les collectifs, les collectivités territoriales, pour tenter de protéger cet accueil inconditionnel. Merci.